Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier, mais qui va intéresser tout le monde au fond. C'est la prière qu'on peut faire pour nos parents ou enfants prodigues, c'est-à-dire pour les personnes, parents ou enfants, bien qui ne sont pas au Seigneur ou qui ont déserté la maison de Dieu pour faire leur vie, mais en perdant un petit peu de vue l'héritage spirituel. Alors, on va lire un des plus beaux passages de la Bible dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 à 24, qui est cette parabole du fils prodigue. Et on va préciser tout de suite ce que signifie la parole prodigue, parce qu'il y a des gens qui me disent des fois, ou dans leur prière, ça m'est arrivé d'entendre cela, « Seigneur, j'étais un fils prodige ». Ah non, c'est pas prodige, un prodige, c'est un signe miraculeux, c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais le fils prodigue, qu'est-ce que quelqu'un qui est prodigue? C'est quelqu'un qui fait des dépenses excessives ou qui dilapide son bien. Voilà ce qu'est en français quelqu'un de prodigue. Alors c'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise forcément tous les jours, et peut-être qu'on devrait un petit peu le changer pour la tendance d'aujourd'hui, mais bon, on est toujours en train d'abaisser le niveau de français, et à la fin, on va tous parler un drôle de langage. Hein. Alors, sachez quand même que celui qui est prodigue, c'est celui qui dépense ses biens. Il y a beaucoup de gens en commission de surendettement de nos jours, eh bien, c'est quelqu'un de prodigue, voilà. Ou tout simplement quelqu'un qui dilapide les richesses qui sont siennes. Alors c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, il dilapida son bien, il fut prodigue, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Lui qui venait d'une famille riche se retrouve à garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite ta plus belle robe !» Et l'en revêtait. « Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Voilà un texte extraordinaire qui nous parle du Père, d'un Père avec un cœur compatissant, un Père qui cherche son Fils. Et ce Père parle d'un Père bien plus grand, bien entendu, qui est le Père Céleste, le Dieu créateur de toutes choses, et qui cherche ses fils et ses filles dans ce monde qui le rejette, dans ce monde qui dilapide son héritage. C'est l'homme Adam, Ève, également, ont chuté, comment? En désobéissant à Dieu, en allant vers ceux qui allaient leur causer plus de pauvreté que de richesse, en délaissant l'arbre de vie pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désobéissant à l'ordre du Créateur et entraînant ainsi toute l'humanité à venir dans sa chute. Et évidemment, ce sont tous les fils et filles de Dieu qui se sont retrouvés ainsi loin du Créateur, perdant le bénéfice de sa présence toute proche, perdant le bénéfice de toute la plénitude de ce qu'on peut trouver en lui. Et jusqu'à ce jour, et aujourd'hui, nous pouvons dire, quand la Bible dit que tous ont péché, c'est-à-dire qu'ils ont manqué le but, c'est la racine de ce terme, quand tous ont manqué le but, tous ont péché, ils sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Personne arrivant dans ce monde, naissant dans ce monde, ne peut dire qu'il est dans la présence de Dieu. Personne ne peut dire, ben, j'arrive à prier comme je respire. Ce n'est possible que lorsqu'on a été réconcilié avec Dieu. Ce n'est possible que par Jésus-Christ qui est la porte de réconciliation qui nous ramène vers le Père. Mais en attendant, chaque homme, chaque femme qui naît sur cette terre, eh bien, est dans cette déchéance spirituelle, dans cette pauvreté, dans cette médiocrité spirituelle. Et nous sommes tous en cela des fils prodigues, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des créatures qui ont, eh bien, délaissé les biens spirituels, la richesse qui se trouvait en Dieu pour la pauvreté que nous connaissons aujourd'hui, qui, avec tout ce que nous voyons autour de nous, la pauvreté et la médiocrité s'étalent sous nos yeux, et en même temps ce désir de l'homme de toujours s'affranchir du mot Dieu et de ce qu'il représente, eh bien fait que nous sombrons de plus en plus dans le chaos, la confusion. Il est vrai que le progrès, il est là, le progrès technologique, le progrès des apparences, il est là aussi, mais le progrès concernant le cœur de l'homme, le progrès concernant la nature de l'homme et sa nature propre, ça, c'est pas résolu, et c'est un véritable cancer. Et quand on regarde le journal, on a beau me dire, moi, que le progrès, c'est quelque chose, moi, quand je lis le journal, je vois ce que je vois, et qu'est-ce que je vois? Des meurtres, on tue des policiers, on tue une personne parce qu'elle nous plaît pas, il y en a un qui nous a regardé, peut-être pas de la façon dont on voulait, alors allez, tac, on le fume. Voilà où on est presque en Colombie. Et ça me fait un peu sourire, parce qu'il y a quelques années, je suis allé dans ce pays, et avant d'y aller, j'avais lu ce qui était écrit dans le ministère des Affaires étrangères, sur le site du ministère des Affaires étrangères, et il était écrit qu'il fallait pas aller dans ce pays-là, on risquait d'être enlevé à tout moment, etc., etc. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais senti aussi en sécurité que dans ce pays-là. Bon, de toute façon, pour nous, quand nous allons dans n'importe quel pays, nous allons avec le Seigneur, donc déjà nous sommes en sécurité par nature. Mais je parle de la sécurité, on va dire, d'un pays, ce qui est déployé pour que les gens soient en sécurité, on était en sécurité. Et on nous disait aussi qu'on ne pouvait pas payer par des moyens de crédit habituels, parce que sinon ça craignait, etc. J'ai dû le faire un peu par la force d'ailleurs, parce que j'ai été mis au défi par un restaurateur, eh bien, de lui payer quand même avec ma carte de crédit. Et il m'a dit, la prochaine fois, voilà votre carte, donc, et la prochaine fois, arrêtez de regarder votre site pourri, là, en gros, ce site de votre ministère des Affaires étrangères qui critique notre pays. Et du coup, ça fait un peu sourire, parce que dans ce pays aujourd'hui, et dans d'autres, bien entendu, la sécurité n'existe pas. Le péché est là, à la porte. Il est tapis. Et des envies de meurtre, les mauvaises pensées qui conduisent à des actes sont là. Une sexualité débridée, des mœurs au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet des élites, enfin du moins ceux qui s'appellent ou qui se considèrent eux-mêmes des élites, car ils n'en sont pas. Élite signifie ce qui est le meilleur, c'est-à-dire la crème. Donc la crème, ce sont des gens comme vous et moi en vérité. Ces gens-là ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont peut-être été dans les prestigieuses universités, mais à quoi ça leur sert aujourd'hui? Certains organisent des orgies, certains, eh bien, gouvernent, mais gouvernent comment? Avec des œillères dans les yeux. Alors je crois que tout cela remis en perspective nous montre que ce que notre pays et d'autres vivent, ce monde vit, c'est l'usurpation par un ennemi qui un jour s'est insinué dans le monde et a séduit, a tenté l'homme et la femme, mais il n'est en rien responsable de leurs décisions. Et en vérité, chacun d'entre nous prend une décision. Et notre société a pris la décision de mettre Dieu dehors. Et c'est dans beaucoup de pays, ça. Alors nous ne mettons pas Dieu dehors de notre vie. Nous ne voulons pas faire comme ce fils prodigue, eh bien, qui a rejeté sa maison paternelle, qui a rejeté son père, qui a rejeté, finalement, toute la richesse qu'il y trouvait, tout l'amour, la miséricorde qu'il y trouvait. Sans doute pensait-il que c'était pas suffisant. Il regardait vers un ailleurs. Il regardait vers autre chose, et c'est vrai que l'herbe, elle est toujours meilleure ailleurs. Hein. Mais en attendant, eh bien, son père n'a pas discuté. Il lui a laissé sa part d'héritage. Il est parti, mais il a dilapidé cet héritage. Il s'est éloigné. Il a tout dépensé jusqu'à ce qu'une grande famine vienne. Et la famine nous guettera toujours quand on abandonne Dieu. On est affamé, on est assoiffé. Le monde devient un désert aride pour nous. Et ça arrive à un moment ou à un autre, mais ça arrivera, vous en faites pas, parce que sinon ça voudrait dire que la parole de Dieu est mensongère. Or la parole de Dieu est la vérité, et elle s'accomplit toujours, elle trouve toujours son lieu. Alors, il se retrouve dans une situation, vous l'avez lu avec moi, il se retrouve à manger ce que mangeaient les pourceaux, c'est-à-dire des caroubes. Lui qui venait d'une famille où on ne manquait de rien, où il y avait l'abondance, se retrouve à manger la nourriture des animaux pour pouvoir, eh bien, subsister. Et il réfléchit alors. Et dans la Bible, il est écrit, au jour de l'épreuve, réfléchis. Et il a bien fait, il a réfléchi. Sans doute restait-il un peu de semence des conseils de son père. Et il a réfléchi, il s'est porté à la réflexion et il a réalisé que les mercenaires, les serviteurs de son père étaient mieux traités que lui à ce moment-là. Et alors, il a eu ce désir de se lever et d'aller demander pardon à son père, de se repentir en quelque sorte. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rejoint les actes et la parole et il s'est levé, il est allé vers son père. Et son père était là, il nous a dit que son père guettait. Et tous les jours, sans doute, ce père extraordinaire scrutait l'horizon pour voir si son fils revenait. Ça, c'est la miséricorde en action. Ça, c'est l'amour de Dieu en action. Et nous avons un Père céleste qui est pareil, qui chaque jour scrute l'horizon de ce monde pour voir si les hommes et les femmes qu'il a créés vont revenir à lui. Alors, comment fait-il? Bien entendu, il n'est pas sans action. Il travaille par son Saint-Esprit à convaincre, à persuader les uns les autres, à conduire des circonstances pour que vous vous retrouviez, par exemple, dans un lieu comme celui-là où vous pouvez entendre la parole de Dieu. Mais ça peut être un tas d'autres circonstances. Dieu est infiniment mathématique. Dieu est infiniment sage. Et il est capable, eh bien, de créer toutes les circonstances qui vont vous permettre d'être au moment idéal où il faut être pour qu'il vous parle et pour qu'il vous saisisse dans votre vie et vous arrache à la condition de ce siècle mauvais. Comme le dira l'apôtre Pierre lors de son discours à la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans maintenant, il disait « Arrachez-vous à ce siècle mauvais !» Et en gros, rejoignez la cohorte de mes élus. Et ce jeune, il a fait cela. Et il a été se repentir. C'était une vraie repentance, une vraie condition de cœur, un vrai état de cœur qui était là. Et il a donné vraiment à son père tout ce qu'il y avait dans son cœur. Et le père, vous remarquez, n'a pas fait grand cas de ce que son fils disait, car il connaissait déjà par avance l'état de son cœur. Et quand j'ai dit tout à l'heure que notre thème ce matin, c'est la prière pour nos parents ou nos enfants prodigues, eh bien, je pense que ce Père, il priait. Et la Bible nous dit aussi que Christ intercède pour nous. Il est debout à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Christ prie pour nous, pour que nous revenions au Père. Et le Saint-Esprit s'emploie à créer ces circonstances, à parler par les circonstances, par la parole, en mettant des gens devant nous qui vont nous parler. Et Dieu n'est jamais si loin que nous pensons qu'il peut être. Il est beaucoup plus près, au contraire. Et ce Père, eh bien, il va rendre sa dignité à son Fils. Tout plein d'amour, il va lui rendre les conditions qui étaient les siennes auparavant. Et on tue le veau gras, on fait la fête. Dieu est un Dieu de fête. On l'a dit ce matin, on l'a surtout chanté. On l'a vécu dans notre cœur par le chant. On a proclamé vraiment qui Dieu est. Et c'est une réalité, nous le croyons. Ne croyez pas que nous chantons pour chanter. Nous croyons ce que nous chantons. On ne fait pas de cinéma. Et Dieu est ce Dieu-là. Et il va revêtir de cette robe le jeune fils afin qu'il retrouve cette dignité, cette justice. Et nous avons revêtu Christ qui est notre justice aujourd'hui. C'est lui qui nous rend cette blancheur, cette innocence par rapport à la noirceur du péché qui nous a habiter, amener le veau gras, et on fait la fête, parce qu'à chaque fois qu'un homme, une femme se tourne vers Dieu, c'est la fête dans le ciel. Les anges se réjouissent de notre salut. Ils ont même les yeux plongés dans le mystère que représente le salut des hommes. Et cet homme dit, mangeons et réjouissons-nous. J'aurais bien voulu y être. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et chaque culte que nous vivons le dimanche, c'est un culte où chacun se réjouit de ce que plusieurs fils, de ce que plusieurs filles qui étaient morts sont revenus à la vie. Non pas qu'ils soient ressuscités physiquement, je le précise quand même, mais on parle de résurrection spirituelle, de nouvelle naissance, d'une transformation de l'homme qui était contre Dieu et qui d'un seul coup est pour Dieu. Ça peut prendre quelques secondes, nous le savons. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et nous continuons, nous, à nous réjouir aussi. On n'a pas commencé, on continue, nous. À nous réjouir chaque dimanche de ce que des fils et des filles, partout dans le monde, retrouvent le Seigneur, retrouvent leur Père Céleste, et ne sont plus des prodigues, mais des hommes et des femmes réconciliés avec leur Dieu. Alors précisons à nouveau que celui qui est prodigue, c'est donc quelqu'un qui dilapide ses biens. Et comme ce père qui a vu son fils finalement s'éloigner de la maison paternelle, il est évidemment douloureux pour chacun d'entre nous, pour les pères et les mères chrétiennes, de voir leurs enfants ou des proches, ça peut même être des enfants qui voient leurs parents s'éloigner de Dieu, à rejeter l'héritage spirituel, l'héritage chrétien, l'héritage oui spirituel, l'héritage des saints dans la lumière, comme il est écrit dans la parole de Dieu, ou bien ne pas prêter intérêt, ne pas prêter attention à l'évangile. Et ils sont donc ce qu'on appelle des enfants prodigues. Ils dilapident leur héritage spirituel. Ce peut être aussi un mari, ça peut être une épouse prodigue, ça peut être notre père, notre mère qui est prodigue, quelqu'un qui est occupé tellement par sa carrière qu'il n'a plus de temps à donner à Dieu. Dieu seul voit ce qu'il en est du salut de telle personne. J'ai beau lui serrer le kiki, hein. Voilà, il n'y a rien à faire. Il nous faut nous méfier des apparences, parce qu'en fait, il y a l'apparence extérieure des gens, mais il y a aussi l'état de leur cœur. Et Dieu voit réellement ce qui se passe dans les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Les yeux de Jésus sont comme des flammes de feu qui pénètrent au fond des consciences, au fond des cœurs. Et quand nous voyons quelqu'un qui semble rejeter Dieu, il est possible que Dieu voit autrement, parce qu'il connaît l'état des cœurs. Il sait le stade avancé de travail chirurgical qu'il a fait dans chaque cœur pour amener la personne à Christ. Et là où nous voyons uniquement un problème, il est possible que Dieu voit une conversion extraordinaire, une transformation glorieuse qui peut arriver à tout moment. Alors on va situer le problème dans un premier temps. Le problème, c'est qu'on peut être tenté de délaisser la prière, de cesser de prier pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Peut-être qu'on a beaucoup investi dans la prière en faveur de nos proches, et peut-être qu'on se décourage, peut-être qu'on se lasse. En fait, rien n'est jamais garanti, c'est vrai. Mais nous pouvons nous-mêmes devenir des prodigues, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber, nous dit la parole de Dieu. Et on peut être tenté de délaisser la prière. Mais on se rappelle ce que disait le prophète Samuel, « Loin de moi la pensée de cesser de prier pour le peuple. » Et il doit être loin de nous de cesser de prier pour quelqu'un pour lequel nous avons prié pendant des années. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, dira « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, c'est une façon de dire « Il faut que je m'approche du Seigneur chaque jour, toujours dans la même persévérance, toujours dans la même endurance, toujours dans la même pensée de gagner un proche, un tel à Christ. » Celui qui est sur ma liste, je veux le gagner, alors je ne cesserai pas de prier, même si je dois me répéter chaque jour et dire « Seigneur, ouvre la porte de son cœur ». C'est comme ça qu'on doit s'approcher du Seigneur chaque jour et il nous faut nous fortifier en lui pour être toujours puissant en lui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, y compris dans la prière, pour prier pour ceux qui te sont chers. Et nous sommes appelés également à être fervents d'esprit, à avoir ce feu en nous pour prier pour les autres. Et c'était aussi pour nous un combat, évidemment, qui sans le précieux ministère du Saint-Esprit qui agit en nous et à nos côtés, serait difficile à surmonter, voire à dépasser. Alors il faut prendre garde à notre manière de vivre et à ne pas nous reposer sur nos lauriers non plus, à notre manière de penser, de concevoir les choses. Et la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, c'est une des histoires les plus extraordinaires qui soit, mais c'est aussi une des plus courtes, mais qui traite de la réalité de l'existence des personnes prodigues, des personnes qui sont loin de Dieu. Et ce texte pose un problème qui existe dans bien des familles chrétiennes. Et pour savoir comment prier, il nous faut une bonne théologie. Vous allez voir ce que j'entends par là, une bonne théologie en la matière, c'est-à-dire une bonne manière de concevoir les choses. Et c'est mon deuxième point, la théologie dont nous avons besoin. Si Dieu a pu ressusciter des morts, physiquement cette fois-ci, des morts depuis 3 jours, y compris le Fils, Jésus, comment ne pourrait-il pas changer le cœur de quelqu'un? N'est-il pas le Créateur? Alors lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne vois pas pourquoi il serait incapable de changer en quelques instants le cœur de quelqu'un qui nous est cher. Même le plus dur des cœurs. On en a vu des caïds se convertir. On a vu des bandits, on a vu des chefs de gang se convertir. On a vu des toxicos se convertir. Pas plus tard que hier, je le disais dans ma prière tout à l'heure, mais j'ai eu un message d'un ami qui s'appelle Cristobal. C'est un Français qui vit en Espagne, mère espagnole et père français. Et son père me téléphonait il y a quelques années pour me dire « Oh, c'est désespérant, mon fils est loin de Dieu, etc. » Et puis, on a prié pour lui, et maintenant son fils est au Seigneur. Et il y a quelques temps, il m'appelait pour me dire dans quelle situation s'était mis son fils, parce qu'évidemment, il sort de la toxicomanie, il n'a pas toujours de bons plis. Et puis, on a prié pour cette situation, et alors qu'il était coincé en Grèce, il est à nouveau en Espagne, par toutes sortes de biais, puis il y avait le Covid, tout ça, donc des impossibilités de voyager. Et aujourd'hui, il a retrouvé une église, il a retrouvé une vie, et il m'appelait pour me dire eh bien, qu'il était dans la joie. Parce qu'il il prenait beaucoup de temps pour servir le Seigneur, beaucoup de temps pour prier, et se tenant dans la présence de Dieu, eh bien, il était dans la joie. Et c'est bon d'entendre cela. Un gars qui était si loin de Dieu, un gars qui mangeait des caroubes finalement, parce qu'il était dans la toxicomanie, se nourrissait de choses qui ne vont pas. Et puis aujourd'hui, il est libéré, il a déjà donné son témoignage, il est baptisé, et en même temps, eh bien, le Seigneur l'a conduit dans les difficultés, dans les épreuves, et l'a sorti des ornières dans lesquelles il s'était mis par des mauvais choix. Et c'est extraordinaire d'entendre quelqu'un vous dire un message qui finalement nous permet d'avoir aussi à notre tour de la reconnaissance envers le Seigneur de ce qu'il accomplit, de ce qu'il est fidèle pour accomplir, pour réaliser dans la vie des gens. Alors il nous faut cette théologie-là qui conçoit que l'impossible peut devenir possible. Amen. Alors nos émotions sont parfois contre nous. Et il n'y a pas que nos émotions et nos pensées qui sont contre nous. Les circonstances, parfois, sont contre nous. Il semble qu'il y a un Goliath devant nous, une impossibilité, une pierre qui est comme la pierre du tombeau, et que rien ne va bouger. Il semble que rien ne bouge, même, et même ça ne bouge pas, parfois, tout simplement. Alors nos raisonnements sont là, on dit, oh ben c'est impossible, on est découragé. Qui que nous soyons, ce que nous voyons semble aller à l'encontre de ce pourquoi nous prions. Alors pensons à ces moments-là à l'impossible qui devient possible avec Dieu. Le point de départ doit être le Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Il ne faut pas nous focaliser sur le problème ni sur la personne qui est spirituellement morte. Nos yeux doivent être sur Christ, qui est vivant au siècle des siècles et qui ressuscite même les morts, qui ouvre les yeux des aveugles et qui rend l'ouïe aux sourds. Et c'est cette vision-là qui doit nous animer. Pour cela, il faut garder notre cœur. Le Proverbe 4, verset 23, nous dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, surtout quand tu pries pour les autres, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et si notre cœur est découragé, si notre cœur est las, nous n'allons pas prier efficacement. Nous allons avoir des pensées négatives qui vont influencer malheureusement nos prières. On va devenir quelqu'un qui prie mécaniquement pour dire « Allez, je prie quand même, mais... » Ça ne va pas être vivant, ça ne va pas être sincère, ça ne va pas être authentique, et ça ne va surtout pas monter au trône de Dieu, parce que c'est une prière un peu incrédule quand même. Nos prières doivent toujours dépasser le polystyrène du plafond, ou toute autre matière qui est au-dessus de nous. Il nous faut garder une qualité de vie spirituelle profonde, intense, pour prier pour les nôtres. Savoir de plus en plus apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour bien prier, et pour être efficace dans ce domaine, parce que nous touchons au royaume de Dieu, aux choses d'en haut. Et pour cela, notre cœur doit être gardé intact de tout découragement, de toute lassitude au sujet de nos proches, de tout mauvais comportement. Surtout, veillons toujours à dégager le légalisme de nos cœurs. N'imposons jamais la foi à personne. Prions pour les gens qui refusent d'embrasser la foi. Je me souviens de ce frère à Châlons, dont j'étais le pasteur, et qui me disait « Oui, mon fils, il vit avec une fille, donc du coup, je ne l'accueille plus à la maison parce qu'il est hors de question que j'accueille mon fils couchant avec une fille avec qui il n'est pas marié. » Eh bien, je lui dis « D'accord, fais comme tu veux, mon frère, mais tu vas perdre ton fils, tu ne vas pas t'en rapprocher. » Il m'avait semblé avoir cru que tu voulais te rapprocher de lui, qu'il se rapproche de toi, mais là, tu es en train de tout faire pour qu'il ne se rapproche pas de toi, parce que tu es légaliste. Tu mets tes conceptions chrétienne dans la vie de quelqu'un qui ne l'est pas. Tu imposes quelque part un comportement que lui ne peut pas avoir, puisqu'il n'est pas lui-même un disciple de Jésus. Et tu n'en feras jamais un disciple de Jésus par ton exemple, puisque ton exemple, il est un peu à vomir, il est répulsif finalement. Alors il a compris, hein. Et ce frère-là, il a accueilli son fils, avec qui il s'est rapproché, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont de très bonnes relations. Il a compris la leçon. Il a compris la leçon, mais le fils a aussi été ému de voir son père, eh bien, se rapprocher de cette manière de lui. Hein ? Comment on peut des fois couper des relations inutilement ? Proverbe 21, verset 1, nous dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. » Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit dans ce que nous faisons, d'être conduits par la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Attention aussi à nos paroles, n'en disons pas trop non plus, et surtout ne disons pas n'importe quoi. Laissons le Seigneur nous diriger et ne parlons pas en vain, ou encore moins à tort et à travers. Ne semons pas de mauvaises graines autour de nous, dans les cœurs également, mais semons la semence du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qui vient du Seigneur lui-même, de sa parole. Sans exagérer, les actes parlent à ce niveau-là plus que les paroles. Dans Proverbe 25, verset 11, les proverbes sont là pour nous conseiller, pour nous encourager. Il nous est dit comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Vous avez le petit plat avec les ciselures d'argent, on ne le voit pas très bien là sur l'écran. Moi, je les voyais bien sur le mien quand je l'ai mis, l'image. Mais ce sont des ciselures d'argent. Eh bien, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Alors attention, parfois dans la famille, nos actes peuvent être aussi mal interprétés, qu'on fasse bien ou mal. Et ça aussi, il faut. Parfois on nous dénigre, alors même que nous ferions du bien. Et parfois, quand on ne fait pas ce qu'on attend de nous, on a tendance à nous le faire remarquer, voire à nous le reprocher, voire même à couper les relations à cause de cela. Et nous, nous n'avons pas à faire ce qu'on attend forcément de nous. La seule chose, c'est aimer et prier. Le reste nous appartient. Et si quelqu'un essaye de nous dire, en gros, ton temps, le temps que tu prends pour Dieu, ne le prends plus, vaut-il mieux désobéir à Dieu ou aux hommes? Et je crois que nous avons aussi notre responsabilité. Et parfois, on peut faire des compromis, mais nous ne sommes pas des pigeons, frères et sœurs. Parce que on gagnera personne en faisant des compromis. Parce que ceux qui nous prennent après notre temps ne vont pas nous rendre ce que nous avons perdu. Et nous ne sommes pas non plus appelés à être des personnes qui subissent. La sagesse, d'accord, elle est pacifique, elle est modérée, mais elle doit aussi être ferme. Et la fermeté doit aussi nous animer quand c'est nécessaire. Nous ne devons pas faire de compromis, mais suivre la direction divine et non pas forcément ce que veut la famille. J'aime beaucoup ce passage et j'en parle parfois avec des frères et sœurs dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ça a le mérite de mettre les choses au clair. L'apôtre Paul était un homme qui avait une famille. Apparemment, on entend parler d'un de ses neveux qui était converti. Mais l'apôtre Paul a été marié. Était-il veuf? Était-il séparé? On ne sait pas. Toujours est-il, on sait qu'il était marié parce que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être mari d'une seule femme. Et de même, l'apôtre Paul, eh bien, sans doute avait-il des gens de sa famille, israélites comme lui, qui n'ont peut-être pas accepté sa conversion, qui n'ont peut-être pas accepté la direction qu'il a prise. Peut-être avait-il fondé de grands espoirs et des ambitions sur lui, le grand rabbin, qui était en progression, qui était en train de s'envoler, qui était une star du judaïsme. Et puis voilà qu'il embrasse la foi chrétienne, qu'il croit au Messie Jésus. Ça n'a pas dû faire que des heureux. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 16, il nous dit, c'est pourquoi maintenant, désormais, dans d'autres versions, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Quand il dit nous, il nous embrasse tous, finalement. Nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Et en fait, nous avons des frères, des sœurs, des amis, des proches. On peut dire que c'est dans selon la chair, c'est-à-dire dans le domaine de ce monde, domaine matériel de ce monde, dans le domaine physique. Mais spirituellement, il y a une séparation entre nous et le reste des hommes qui ne sont pas à Christ. Et nous ne pouvons pas faire des compromis tout simplement pour leur plaire. Mais il y a cette séparation, non pas physique, mais spirituelle qui demeure. Nous n'allons pas pécher pour leur faire plaisir. On va pas faire le pasteur, par exemple, ne va pas faire la bombe jusqu'à 2 heures du matin. Et puis vous verrez le message après. Il sera le reflet de la veille. Hein. Il y aura même les effluves avec. Vous êtes d'accord? Donc on n'est pas là forcément pour faire plaisir à tout le monde, mais nous devons vivre dans la sainteté, vivre dans cette séparation spirituelle. Et c'est pour ça que nous connaissons les autres, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est pour ça que nous prions pour notre famille. Et en priant pour notre famille, on ne prie pas pour qu'ils soient bénis dans l'état où ils sont, on prie pour qu'ils soient bénis dans un état futur qui est celui d'être en Christ, d'être en Dieu, d'être avec le Seigneur. Parce que s'ils étaient bénis dans la situation où ils sont, ils ne seront pas sauvés. Ça ne sert donc à rien. Donc nous prions pour de telles choses et de cette façon. Pourquoi devons-nous être ainsi? Le verset 15 qui précède nous dit que Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est la raison pour laquelle nous ne connaissons plus personne selon la chair, parce que notre priorité, c'est Jésus. Nous le servons en premier lieu. Imaginez un jeune couple que le Seigneur appelle à devenir des missionnaires. Parfois, la famille s'oppose, même des fois la famille chrétienne. Bah oui, c'est normal, il y a un peu de sentiments, il y a les émotions. On n'a pas envie de voir forcément nos enfants s'éloigner, surtout si c'est aller au bout du monde. Hein? Et donc, on perd quelques précieuses années où on va être séparés. Et donc, c'est pour cela que celui qui est appelé justement à aller en mission, il est obligé à ce moment-là de vivre ce verset. Maintenant, nous ne connaissons plus nos parents d'une façon humaine. C'est spirituellement qu'on est obligé de juger les choses, d'estimer les choses et de se séparer temporairement de ce qu'eux, ils veulent pour nous, parce que ce qu'ils veulent pour nous ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous et ce à quoi il nous appelle. Et c'est ainsi dans la vie. Il me semble que c'est bien clair, finalement. Je me souviens de tant de gens qui ont dû prendre des décisions de ce genre, des décisions dans lesquelles il ne fallait pas faire de compromis. Je crois que c'est notre frère Moïse qui a même prié tout à l'heure de cette manière. Il nous a même donné un passage. Et finalement, il a anticipé sur ce que j'allais dire. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul prie et il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Voyez, le cœur, il a des yeux. L'entendement, le cœur a des yeux. Le cœur, c'est là où les décisions de notre vie sont prises. C'est là que nos valeurs existent. C'est là que se trouve la direction que nous allons prendre, où nous allons, comment nous allons vivre chaque jour de notre vie. C'est en quelque sorte dans ce PC, ce poste central de crise, que tout se passe, tout se décide. Et il faut soigner ce cœur et permettre à la vie de Dieu d'irriguer toujours son contenu. Et les yeux de notre cœur peuvent être fermés ou ils peuvent être ouverts. Quand ils sont fermés, eh bien nous marchons aveuglément dans cette vie, sans direction, et nous faisons des mauvais choix sur mauvais choix. On tombe dans le péché, on transgresse les lois de Dieu, et on finit dans le décor, et on commet les mêmes erreurs sans cesse, et les relations qu'on entretient deviennent mortelles. Alors avec les yeux fermés, le cœur, il perd sa vision morale, spirituelle. Il est privé de la lumière de Dieu. Et nous pouvons voir tout en étant aveugles en même temps. Beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui connaissent Dieu, mais ont les yeux tellement dirigés vers les choses de ce monde qu'ils sont devenus aveugles quant à la vérité. Si nos enfants reviennent bourrés tous les week-ends, s'ils se droguent, s'ils sont rebelles, s'ils ne sont pas motivés dans la vie, ce sont des symptômes d'un problème plus profond, plus fondamental. En fait, ils n'ont jamais eu d'engagement personnel avec Jésus-Christ. Ils n'ont jamais été sérieux dans ce domaine-là. Alors, il faut prier en conséquence. On ne peut pas faire des petites prières molles à chamallow. Il faut des prières carambardures. Il faut des prières qui vraiment dégagent le ciel des reins et tout ce qui est épaisse ténèbres pour que nos enfants reviennent au Seigneur. Et pour ça, il faut être lucide. Il ne faut pas dire « Oh, ben, c'est mes enfants, alors ils seront toujours les meilleurs ». Vous avez dû remarquer, quand ils avaient 3-4 ans, que derrière leur pyjama, ils n'avaient pas d'ailes. Aucun enfant n'a des ailes. On est pécheur, même quand on est enfant, on est pécheur. C'est déjà visible. Alors, il n'y a aucun moment où on peut ne pas être lucide. Il faut être lucide sur la situation des uns et des autres pour prier en conséquence. Quand on a nos yeux du cœur qui sont ouverts, on ne voit plus les choses pareilles, on voit comme Dieu voit. Et c'est ainsi qu'on peut entrevoir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui nous dit « Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. » Pour nos enfants, pour nos parents, pour nos proches, pour nos amis. Alors quelle est la prière qu'il convient de faire? Le centre du problème, on l'a vu, c'est notre cœur, et le cœur des autres. Alors ne nous inquiétons pas trop des symptômes, mais attaquons-nous surtout aux racines. Alors, prions pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur à leur tour. Les nôtres étant ouverts, prions pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur. Disons, Seigneur, permets que leurs yeux s'ouvrent et que leur vie change radicalement. Ce que 1000 sermons vont peut-être pas pouvoir faire, alors la prière va faire la lumière dans les cœurs, dans les esprits. Le voile va tomber et celui qui était dans un pays éloigné, ce fils prodigue, cette fille prodigue, va revenir à la maison du Père dans la repentance. Et il aimera demeurer dans cette maison où on a commencé à se réjouir à cause de son retour. Avant, ces gars-là, ces prodigues vivaient pour les plaisirs du monde, où ils vivaient religieusement. À présent, ils vont chercher à plaire au Seigneur. Est-ce que c'est possible? Oui, puisque tout est possible à Dieu. Alors on n'a pas besoin de savoir comment ça va arriver. Il nous suffit de savoir qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles, selon Matthieu chapitre 19, verset 26. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Eh bien, ouvrir les yeux des aveugles spirituels, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Lui seul peut le faire et c'est la source de notre espérance, de notre espoir. Je vais vous donner un témoignage. Il y a 1600 ans de cela, il y a une femme qui s'appelait Monique. Eh oui, il y avait déjà des Moniques en ce temps-là. Il n'y a pas de Monique ici. Hein si. Ah ben si, notre Monique nationale. Je l'avais oublié. Impardonnable ça. Eh bien Monique, sois encouragée ce matin. Parce qu'il y avait, il y a 1600 ans, il y avait une femme qui s'appelait Monique, qui avait été élevée par des parents chrétiens en Afrique du Nord. Il y en a qui vont se réveiller là, en parlant d'Afrique du Nord. Hein. Et quand elle était en âge... Eh bien, cette Monique, on l'a mariée à un homme païen. Et le mariage a été difficile à cause de cette division spirituelle, vous voyez, dans le couple. Monique et son mari ont quand même eu 3 enfants, dont 2, eh bien, on servi Christ, suivait le Christ. Mais il y en a un qui a abandonné la foi lors de son enfance. Et il a été de plaisir en plaisir, il a choisi le sentier des plaisirs du monde. Il a même adopté des philosophies païennes, des hérésies également. Et pendant plusieurs années, il a même vécu avec une maîtresse qui a donné naissance à un de ses enfants, un fils, en dehors des liens du mariage. Il a brisé le cœur de sa mère en se joignant à cette femme et à un culte religieux romain. Mais cette femme, Monique, elle a prié. C'est une femme de prière, Monique. Elle a prié pendant 17 ans pour que son fils revienne à Christ et à l'Église. Et je peux vous dire qu'il est revenu non seulement à Christ, mais aussi à l'Église. Plus tard, son fils dira qu'elle avait inondé la terre de ses larmes pour lui. Priant plus à cause de sa mort spirituelle que la plupart des mères pour la mort physique de leur enfant. Elle a jeûné, elle a prié, elle a demandé à Dieu de sauver son fils. Et un jour, elle allait voir, eh bien, le responsable de son église et avec larmes lui a demandé pourquoi son fils vivait ainsi dans le péché malgré les prières. Et vous savez ce qu'a répondu le serviteur de Dieu? Il a répondu, il n'est pas possible que le fils d'autant de larmes périsse. Votre fils sera sauvé. Et il avait raison. Ça a pris encore quelques années de prières ferventes de la part de Monique, mais un jour, le fils prodigue de Monique est venu à Christ. Son nom? Augustin. Celui qu'on a appelé Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs de l'histoire chrétienne, le prédicateur enflammé qui amena des milliers d'âmes à Christ en Afrique du Nord. 16 siècles plus tard, les Algériens se souviennent encore que c'est lui qui prêchait l'évangile dans leur pays. On a ses livres, on a ses écrits qui sont encore imprimés, les Confessions de Saint Augustin, la Cité de Dieu et d'autres passages. Alors, il n'y a pas toujours un accord théologique sur ce qu'il a pu écrire, mais il a écrit des choses très très intéressantes. Mais voyez, il a été un instrument de Dieu en son temps. Pour dire que la prière des mères et des grands-mères est quelque chose. Je me souviens de ce frère missionnaire américain qui nous disait toujours « Oh, quand mamie priait, même mes parents faisaient ce que Dieu voulait !» Lui dites pas. Mais c'est vrai. Je me souviens aussi de cette grand-mère qui a prié pour son petit-fils, Josué. Et un jour, il est revenu au Seigneur. Il est devenu pasteur. Et puis après avoir été pasteur, il est parti sur Madagascar, s'occuper d'une ONG chrétienne. Là où il y avait des enfants, avec son épouse, ils ont soigné les enfants. Elle était infirmière et lui, missionnaire donc. Et ensemble, ils ont fait un travail pendant plus de 20 ans aujourd'hui. Mais il est le fruit des prières de sa grand-mère. Que ça puisse vous encourager ce matin. La prière est dans le plan de Dieu. Et la prédication de la parole également. Et ce plan se conjugue dans la partition divine. Il y a la bonne clé, vous n'en faites pas. Dieu, il a la bonne clé de sol. Hein, ou la clé de fa, si c'est nécessaire. Mais il ne se trompe pas dans le ton, ni dans la tonalité. Alors, tout ça produit un grand changement. Les parents grandissent spirituellement quand ils prient pour leurs enfants. Les enfants grandissent spirituellement quand ils prient pour les parents. Et Dieu permet de voir des cœurs changés qui vont s'approcher de lui en quelques instants. Et tant que nous ne focalisons pas notre prière sur le fait que Dieu peut et doit changer les cœurs, il risque de pas tout de suite se passer des choses. Le point central, c'est converger vers la conversion des autres, vers les lignes qui bougent dans le cœur. Transformation, conversion. Et le premier changement, il a lieu en nous, notre prière devenant plus fervente, plus puissante, plus intense. Remettons les biens entre les mains de Dieu. Ne lâchons rien. Lâchons pour donner à Dieu, mais ne lâchons jamais rien. Ils ont abandonné le Seigneur, mais pas l'inverse. L'inverse n'est pas vrai, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Alors, si vous semble que votre cas est désespéré, eh bien, confiez entre les bras de Dieu vos proches. Donnez à Dieu les cas désespérés comme l'était Augustin, qui était un cas désespéré à vue d'œil. Laissons le désespoir, frères et sœurs, au tombeau. Laissons la lassitude là où elle est. Et regardons vers le matin de la résurrection, vers l'aube de la résurrection. C'est une toute autre optique. Dieu est spécialisé dans les cas désespérés et il est le chef du commando des missions de l'impossible. Amen. Luc, je conclurai en disant Luc 18, verset 1. Vous connaissez cette parabole de la veuve et du juge unique, cette veuve qui a cassé la tête, qui a cassé les pieds aussi du juge pour qu'il défende son cas. Elle a obtenu raison parce qu'il en avait marre et il en avait plein la tête, alors il a consenti. Et Jésus nous dit cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Alors prions, ne cessons pas de prier, n'abandonnons jamais, prions, 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 selon le cœur de Dieu, pas selon notre cœur, mais selon le cœur de Dieu, pas selon ce qui nous semble bon, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit qui est bon, et la prière accomplie au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. À chaque fois que nous prions au nom de Jésus, nous entraînons toutes les armées du ciel à la suite de notre prière. Quand on croit cela, on est deux fois plus fort dans la prière. Et je crois qu'il y en a qui vont s'amuser dans les semaines à venir, dans la prière, quand ça devient un amusement, plutôt qu'une contrainte, une corvée, la prière. C'est extraordinaire. Alors on va prier pour tous ces besoins que vous représentez finalement, que nous représentons les uns et les autres, de manière à ce que Dieu nous inspire et nous bénisse. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Te remercions parce que ta parole est inspirante, elle est la vérité. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Elle est puissante pour nous guider dans la bataille. Et nous croyons que, Seigneur, ce matin, tu as déversé ton cœur sur tes enfants pour leur permettre de le partager et en même temps de prier pour leurs proches. Tu vois peut-être là où il y a eu de la lassitude. Tu vois peut-être là où il y a eu du désespoir, là où il y a semblé bien qu'on était devant un mur, parce que les circonstances ne se prêtent pas à ce que nous voyons autre chose de différent. Nous ne voyons rien à l'horizon, mais Seigneur, peu importe, ce que nous voyons, c'est Christ ce matin. Et Christ est capable de tout, Christ peut tout. Et nous prions ce matin pour toutes les familles des bien-aimés qui sont dans cette salle, afin que tu agisses et que tu répandes ta grâce et ta miséricorde et que tu attires à toi des hommes, des femmes dans ce retour à Dieu, dans cette réconciliation avec le Père pour laquelle tu as payé par ton précieux sang. Ce matin, nous prions au nom de Jésus que tu inspires nos prières, que tu changes notre vision, que tu illumines les yeux de notre cœur et que, Seigneur, nous voyons dans quelque temps le résultat de ces prières puissantes qui vont monter jusqu'au ciel pour toucher les cœurs de ceux que nous aimons, de ceux qui se sont séparés de toi, de ceux qui ne sont pas dans ton plan, de ceux qui se sont éloignés de ta personne. Nous prions ce matin pour que tu inspires nos cœurs, que tu inspires nos prières, que tu la renouvelles, cette prière, de façon à ce que nous prions différemment. Seigneur, non pas comme des mendiants, mais comme des hommes, des femmes, conscients de la puissance qu'ils tiennent entre leurs mains. Et Seigneur, cette puissance, c'est la tienne que tu as mise à notre disposition pour prier. Seigneur, je te prie pour l'Assemblée, afin qu'elle voie des miracles, des signes, des prodiges dans les familles que nous représentons. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Amen.